Bonsoir tout le monde. Bah déjà, je vous remercie toutes et tous d'être venus. Je veux au premier chef remercier France Laredo, qui, je sais, n'a pas pu venir, pour avoir pensé en fait, à organiser ce café culturel et m'avoir proposé de le mettre sur pied. Et je remercie surtout Juliette Rindon, qui s'est occupée de toute la communication, l'organisation. Donc, un grand merci à toi pour ton travail. Je remercie Catherine Dekever, qui est maître de conférence à la faculté de philosophie, que j'ai sollicité pour participer au temps d'échange et qui a gentiment accepté. Donc, merci beaucoup. Et enfin, je remercie ma sœur Frédérique Bruyas, qui est donc lectrice publique depuis maintenant plus de 20 ans, quelque chose comme ça, qui se prête à cette séance pour lire des extraits de texte. Voilà. Donc, elle va commencer par une lecture d'un passage de la conclusion de mon ouvrage. Ensuite, je vous présenterai brièvement la démarche qui a été la mienne. Et ensuite, le but, c'est qu'on puisse poser des questions, réponses, etc. Que la parole circule dans la salle. Voilà.
Conscience tragique. Penser le néant, vivre de rien. Penser le néant. La naissance coïncide avec les avenues de la mort. Ouverture d'une plaie dont le sang ne cesse de se répandre sur nos talons. Les hommes sont prompts à se nourrir de l'heure, avides qu'ils sont de baumes calmants, destinés à occulter la dimension incurable de cette hémorragie. Dans l'univers réglé des hommes, la norme est clairement l'oubli de soi, d'où l'on voit émerger ces petits arrangements consistant à ignorer que la mort est la véritable épouse de chacun, présente en nous dès le départ et à tout instant. La voici, comme l'exprime Jean Cocteau, appréhendée du dehors, transformée en fable ou en figure allégorique, n'apparaissant qu'au dernier acte. Éclos sur cette ligne de fuite, la figure du mieux, située après, ailleurs, au-dessus, là-bas, au-delà, plus tard ou encore jadis. Ce mieux n'est qu'une persuasion réitérée par de multiples sentinelles des contrées ensoleillées et transcendantes ou des lendemains qui chantent. Ces hommes-là survivent davantage qu'ils ne vivent, en ne prêtant finalement au monde qu'une attention distraite, simple relais des promesses dont ils veulent se convaincre et des sortilèges qu'ils inventent pour se tenir à distance d'eux-mêmes. Dès lors, ne sont-ils profondément dérangés que par l'exercice de la lucidité, par la pensée qui se tient au bord du réel le plus abrupt et menace de les arracher à leurs illusions. La pensée tragique s'inscrit dans cette quête de la lucidité. En quoi elle peut apparaître comme une impitoyable machine de guerre, à la fois contre l'illusion d'être dépositaire d'une vie pour laquelle la mort ne devrait représenter qu'un pendentif terminal qui nous concerne peu, de posséder des vérités transcendantes que l'esprit, parent de l'éternel, serait en mesure de délivrer, et contre l'optimisme imbécile. La mort, réduite à une simple limite externe, n'est qu'un terme aplati pour étouffer le sentiment du mourir. L'esprit qui prétend décoller de son ancrage sensible pour nous entretenir de quelque entité inentamable ne fait que traduire sa tentative d'échapper vers des régions lointaines et prometteuses, déprises de la texture rugueuse et instable de la réalité. L'optimisme, ce délire de l'esprit humain, prêt à tout pour ignorer sa part d'ombre, à l'encontre de toute doublure destinée à fuir le réel ou à le compléter d'un sens, il s'agit de se situer loin de toute pensée consolante pour reconnaître le tragique constitutif de l'être humain, un être profondément seul, guetté par le néant fondateur, sans oublier toutes les petites morts essaimant son parcours, ennui, mélancolie, angoisse, malaise, maladie, rupture affective ou sentimentale, perte des êtres aimés, et qui, quelles que soient les histoires qu'il peut se raconter, devra, un jour ou l'autre, se reconnaître dans son miroir. Notre expérience immédiate de la réalité est celle de l'irréparable, de la cruauté, nous enracinant dans notre dimension dérisoire et insignifiante. Nous sommes ce pas grand-chose, ce presque rien, pour qui tout est irrévocable, irrattrapable, sans recours. La pensée tragique, en nous amenant à affirmer et à penser le pire, nous désolidarise des élans entretenus par les époques optimistes et, plus largement, de toute quête d'un surréel, que celle-ci penche du côté de la raison ou de celui du cœur, à l'instar du Dieu chrétien. La situation de l'individu tragique peut sembler guère enviable. Sans Dieu, travaillé par la déréliction et l'angoisse, conscient d'être rongé par un temps implacable qui le conduit droit à la tombe, il ne lui reste rien, sinon une existence rendue à son insignifiance et purgée d'espoir. Rien à attendre. Mais pour autant que l'on se sente habité d'une vitalité persistante, de ce point zéro où apparaît et s'effondre tout ce qui vit, peut en être tiré une pensée courageuse et stimulante, ressaisissant alors de la confrontation au néant l'écho de cette soif de vie dans les crépuscules évoquée par Cioran. De quoi inciter à tenter de vivre sa vie pleinement sans demander une quelconque justification à l'insignifiance ou à la dureté de notre présence au monde. Il s'agit d'inciter l'homme à regarder la réalité en face, à vivre résolument en mortel, autrement dit, à essayer de vivre du mieux que l'on peut, tout en sachant que l'on vit pour rien. Vivre de rien. À partir de là, avons-nous tenté de dessiner les contours d'une sagesse tragique, consistant à adopter vis-à-vis du monde, non pas une posture de retrait pour se tenir autant que possible à l'abri des orages de l'existence, mais bien plutôt à tenter d'affronter celui-ci dans sa totalité. Art de vivre mortel, supposant l'alliance lucide de soi et de la vie, sans chercher à minimiser ou évacuer la souffrance inhérente à l'existence. La visée n'est donc pas de chercher à moins souffrir grâce à la quête d'un détachement vis-à-vis de notre immersion dans le monde, comme le recommande notamment la sagesse bouddhiste, mais de s'efforcer de mieux souffrir, comme prix de notre attachement à l'existence. La volupté et la douleur de vivre n'iront pas dissociées vers ces moments frêles et fragiles que l'on nomme heureux. On ne peut s'inventer sans troubles, sans tâtonnements et sans fièvres inquiètes. Sinon, l'on se fiche dans des postures d'impassibilité, où l'on tombe dans ses bonheurs, dégoulinants et mensongers, prônés par les entêtés de la forme naïve de leur vitalité, créant des êtres marchant à coups de somnifères et de psychotropes, destinés à juguler les dépressions qui les guettent au tournant, ce tournant du réel, prêt toujours à reprendre ses droits et à rappeler que l'existence ne coïncide pas avec des visages faussement béats. La joie s'impose toujours au lieu même de la souffrance. Deux pôles qui ne se confondent pas, mais une identité des contraires, puisant à la même source turbulente de l'existence. Dès lors, la sagesse tragique vise une affirmation de la vie pour ce qu'elle est, avec tout ce qu'elle peut contenir de douloureux et d'inquiétant. Vie et mort plaisir et douleur, joie et souffrance. C'est tout un. On n'aura pas l'un sans l'autre, comme Nietzsche s'est employé à le rappeler. Seule donc l'approbation en connaissance de cause est à même de relier les contraires, horreur et joie. Vouloir purger la vie des affects susceptibles de nous faire souffrir, c'est obtenir sans doute un apaisement, mais c'est aussi retirer à la vie sa densité même. Une vie sans épreuve ou tourment est-elle seulement intéressante? A-t-on vraiment vécu si l'on n'a pas été confronté à la tempête intérieure susceptible de mettre en cause la poursuite de sa marche? Une vie trop tranquille est, si l'on se fie à Sénèque, comparable à une mer morte. La pensée tragique formule des termes exigeants. Elle incite à une prise en charge de la réalité telle qu'elle est, se concentrant sur des termes tissés d'impermanence. Répit contre repos, port contre paix, danse au-dessus du vide, contre euphorie de commande et passionnant. Insister sur la déchirure irréductible de l'homme, c'est aussi, d'une certaine façon, lui rendre le temps, en lui conférant une fonction et un pouvoir avec, selon les termes de Bachelard, l'intuition de l'instant qu'il s'agit de discerner et de vivre en une véritable création spirituelle.
Là, ça marche. Donc, merci pour cette lecture, en fait, qui reprend largement ma démarche. Bon, je vais quand même essayer de revenir dessus. Je ne sais pas si je parle correctement dans ce micro. Je vais essayer. Alors, pour situer un petit peu la perspective de ma réflexion sur le tragique, je me recommanderais d'une phrase de Clément Rosset, qui a été pour moi une référence vraiment centrale dans cette réflexion. Je le cite. Tout ce qui vise à atténuer la cruauté de la vérité, à atténuer les aspérités du réel, a pour conséquence immanquable de discréditer la plus géniale des entreprises comme la plus estimable des causes. Énonciation du principe de cruauté comme fil conducteur de la pensée, qui ne renvoie pas à un quelconque masochisme ou à une volonté de faire souffrir, mais selon le sens propre du terme cruauté, à une volonté d'appréhender la réalité dans toute sa crudité. Quête de lucidité, donc, qui tente de porter sur le réel un regard proprement dénué d'espoir, autrement dit, décidé à ne rien enjoliver, à ne pas céder de terrain au voile protecteur des rêves ou de l'illusion. C'est ce fil conducteur que Clément Rosset reconnaît comme exigence de la pensée tragique que j'ai essayé de suivre dans ma réflexion. Se tenir à ce cap m'a semblé supposer tout d'abord d'envisager l'existence mise à nu, autrement dit, outre les divers tourments auxquels nous sommes exposés, la vocation à la déchéance, à la mort et à l'oubli de toute existence. J'ai ainsi, en premier lieu, tenté de penser l'épreuve de la condition humaine, renvoyant celle-ci à sa précarité. La visée a été pour moi ici d'essayer d'exprimer la fragilité de notre exposition au temps et au monde, m'appuyant pour cela sur des expériences majeures telles que l'ennui profond et l'angoisse, creusant en soi le sentiment du mourir. C'est en quoi donc la mort n'est pas réductible à une simple limite externe, point final d'une vie, mais nous accompagne tout le temps de la vie. Comme l'a exprimé Montaigne, nous sommes dans la mort pendant que nous sommes en vie. épouser le mouvement destructeur du temps suppose, notamment selon Jean Kelevitch, de se tenir hors de ce qu'il appelle la cuirasse du concept. À cet égard, il m'a paru essentiel de nouer étroitement la réflexion philosophique à la littérature, roman, fragment, théâtre, qui peut offrir, me semble-t-il, un mode d'expression plus au contact du texte de la réalité. J'entends par là un effort pour laisser l'existence se dire à partir d'elle-même, sans chercher à la figer dans le langage de l'abstraction. À cet égard, Samuel Beckett a été un interlocuteur privilégié, exposant sans détour la radicalité de notre finitude. Je pense notamment à la pièce Fin de partie et aux ces deux personnages, Ham et Clove, qui épousent au plus près le temps nu, le temps cru, rivés qu'ils sont à leur seule intériorité. Comme l'a écrit Ludovic Janvier, qui a écrit très beau texte sur Beckett, il parle le temps, il le porte et le respire, il le joue. Un trajet initial qui, au fil de l'ennui et de l'angoisse, a donc pu m'amener à repérer les étapes de constitution d'une conscience tragique, révélant l'insignifiance de notre cheminement et notre état de perdition. État qui a pu faire écrire à Montaigne « Nous n'avons aucune communication à l'être parce que toute humaine nature est toujours au milieu entre le naître et le mourir, ne bâillant de soi qu'une obscure apparence et ombre et une incertaine et débile opinion. » À partir de là, des conduites d'évitement, des stratégies d'esquive ont pu être envisagées. Depuis les mensonges quotidiens que nous sommes susceptibles de nous fabriquer pour nous masquer la réalité, dès lors que celle-ci se montre sous un jour décevant ou douloureux, jusqu'à des élaborations supérieures de l'esprit. Alors, s'agissant des mensonges que l'on est susceptible de se raconter à nous-mêmes, on peut penser à des situations soit cocasses ou soit dramatiques. Pour les situations cocasses, je pense à Bouburoche de Courteline qui se laisse convaincre par Adèle qu'elle ne l'a pas jamais trompé alors qu'il a trouvé son amant dans le placard. Bon, ça, c'est plutôt... Et puis sur un versant, et voilà, il veut tellement pas y croire que... Et puis sur un versant plus dramatique, je pense par exemple, comme l'actualité nous le rappelle cruellement, à une femme qui se convainc, qui veut encore croire que son mari est un être aimant alors qu'il la roue de coups. Voilà, c'est ce genre de mensonge qu'on peut, on peut se raconter à soi-même pour éviter de reconnaître la cruauté de la réalité. S'agissant des élaborations supérieures de l'esprit, je pense là à la métaphysique et à l'ontologie. J'en parlerai un petit peu après, mais je ne développerai pas parce que ça demanderait trop de temps. Donc le discours métaphysique et ontologique. Au fond, comme y insiste Clément Rosset, ce qui est en jeu au regard de la pensée tragique est notre capacité digestive. Il s'agit de reconnaître le réel dans son immédiateté, sa singularité, son caractère mouvant, instable et hasardeux. C'est dire que la quête d'une maîtrise intellectuelle du réel paraît inenvisageable. Dès lors, toute tentative pour coiffer le réel immédiat, autrement dit le réel sensible, d'entités stables et lisses, telles les idées platoniciennes, peut apparaître comme une forme de refus de ce qui existe au profit de ce qui n'existe pas. En ce sens, on substitue un double idéal vrai, déclaré vrai, autant qu'il est flou et abstrait. Le tragique de l'existence suppose de se passer de tout référentiel ontologique. Il n'y a pas d'envers du décor, pas de double, parce que les apparences sont insurmontables. L'inconvénient du réel, c'est qu'il est toujours là, persistant, indifférent à nos objections et aux échafaudages du pur esprit. Les preuves de la réalité nous placent uniquement dans le domaine de la différence, du mouvement, du devenir et de la pluralité, loin donc des essences, des idées ou de l'être. L'enjeu est par conséquent de reconnaître que nous n'avons nulle prise sur le réel et que nous sommes ce pas grand-chose pour qui tout est irrémédiable, irrattrapable et sans recours. À partir de là, il m'a paru important d'interroger le choix de soi comme existant. face justement à la dimension tragique de la réalité. J'ai pour cela envisagé d'abord la possibilité du suicide. En abordant cette question, j'ai voulu marquer trois choses. Il s'est agi tout d'abord pour moi de reconnaître la légitimité de l'acte suicidaire. Cela a supposé le rejet des arguments protestataires, qu'ils soient d'ordre religieux, moraux ou civiques, qui refusent à l'homme le droit de mourir volontairement. D'abord parce que se retrancher derrière des postures d'interdiction, de désapprobation ou de seule prévention revient bien souvent à s'abriter derrière des classifications réductrices. En bref, le suicidaire est un lâche, un démissionnaire ou un déséquilibré. Cela revient par conséquent à méconnaître la dimension irréductiblement individuelle du geste suicidaire, en ajoutant, qui plus est, le poids de la culpabilité au malheur et au désespoir. En quoi toute suicidologie paraît insuffisante, incapable d'épuiser les raisons qui poussent un homme à en finir. En second lieu, il s'est agi de reconnaître l'importance pour l'homme de ce chemin de la liberté, comme l'appelait Sénèque. En ce sens que l'on ne peut vivre et vivre bien que si l'on sait que l'on peut quitter la place quand on le souhaite. Quand Cioran déclare « sans l'idée du suicide, je me serais suicidé depuis longtemps », c'est cela qu'il exprime. Il reste que si la possibilité du suicide est essentielle, le suicide lui-même peut apparaître comme une manière de vouloir commander à la mort. Le même Cioran a écrit en ce sens qu'en résolvant tout, le suicide ne résolvait rien. Il s'avère non pas donc une véritable assomption de la finitude, mais une manière de vouloir neutraliser ou maîtriser la mort en la devançant. La pensée du suicide, enfin, en mettant face au choix de son propre maintien en vie, peut mettre au jour la force de son attachement à l'existence, en révélant alors sa capacité à résister aux arguments qui peuvent la tailler en pièces. Au caractère objectivement indésirable de l'existence peut alors s'opposer son caractère subjectivement désirable. C'est ce que j'ai voulu marquer en parlant d'une affaire de goût. Autrement dit, amour de la vie persistant, qui peut représenter une puissante incitation intérieure à assumer notre condition. Autrement dit, à pencher vers une affirmation totale plutôt que vers une négation totale. Si alors une extraction du temps par en dessous, pourrais-je dire, ne paraît pas une voie de plein affrontement du tragique, ne peut-on envisager un passage en dessus ou par en dessus ? Je pense ici bien sûr à la vision religieuse du destin humain, à l'horizon de transcendance qu'elle suppose à l'issue de notre cheminement terrestre. Il est ressorti de mon questionnement que la pensée tragique ne peut guère s'inscrire dans la perspective de la foi religieuse, celle-ci s'employant à réduire l'impact de notre finitude en considérant la mort comme essentiellement vaincue. À l'instar de la foi chrétienne, la disposition religieuse, lorsqu'elle est profonde, n'enlève certes pas l'angoisse, en tout cas l'angoisse de l'inconnu. L'enjeu n'a pas été pour moi de décrier ces symboles de l'espérance humaine, mais bien plutôt d'établir une frontière. Frontière qui peut se situer, me semble-t-il, autour de la notion d'humilité. Ainsi, là où Pascal situe l'humilité dans l'acte du pari, l'acte de foi s'ouvrant à la promesse divine, la pensée tragique la situe bien plutôt dans la reconnaissance de l'incapacité à trop en dire. Principe donc de cruauté toujours, hypothèse du pire. La seule certitude que nous ayons est le silence de mort que nous renvoie le cadavre, qu'il nous revient dès lors de ne pas déposséder de son empreinte néantisante. La pensée tragique penche alors vers une vision de l'inexistence du divin, tout au moins une disposition réfractaire à toute posture d'attente ou de prière. L'existence humaine se joue sans recours, loin d'une fin porteuse de l'espérance. Beckett exprime cela au plus près, par exemple, dans « Oh les beaux jours », où Winnie ne parvient plus à prononcer sa prière. Je pense aussi au couple Rooney dans « Tous ceux qui tombent », qui sont pris d'un rire sauvage à l'annonce du prêche du lendemain, le prêche du lendemain étant « L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés ». Bon, c'est un vieux couple, ils sont au bout du rouleau. Et... Donc quand on dit qu'on va les relever, ils ont du mal. Nous nous attachons ainsi à notre être en désirant lui donner une sorte d'impermanence. Et c'est là que nous nous fourvoyons, parce que nous sommes faits de temps, tissés de temps. Accepter d'être un être éphémère, c'est cela qui peut rompre la mort scandale. C'est dire que l'existence ne commence véritablement que lorsqu'on se sent fragile, et non quand on se sent loin de la mort. Quels que soient les dérivatifs qu'il s'invente, l'homme vit avec l'angoisse et la mort enfouies en lui. Comme a pu l'exprimer à cet égard Françoise d'Asture, plutôt que de tenter de faire taire l'angoisse ou de la tamiser, il s'agit de s'efforcer de l'assumer. De quoi alors essayer de repérer les éléments d'une sagesse tragique, expression d'un consentement lucide au monde et à soi-même. Considérant que l'existence ne peut être intéressante et intense que si elle conserve l'intégralité de son pouls, la sagesse tragique invite à une réforme du rapport à soi qui suppose une adhésion sans réserve au devenir, avec son lot de souffrances et de déchirements. Adhésion donc, et non pas détachement, pour se tenir à l'abri de la souffrance, comme peuvent le recommander la sagesse bouddhiste ou stoïcienne, par exemple. Il y a là l'exigence d'une affirmation sans partage des données tragiques, qui peut alors nous rendre plus attentifs à l'instant présent, en sollicitant notre concentration pour donner toute l'intensité dont nous sommes capables aux instants, aux actes et aux œuvres que nous entreprenons, sans considération de la durée. On peut ainsi associer à la phrase de Montaigne « Le continuel ouvrage de votre vie, c'est bâtir la mort », cette autre phrase en guise de réponse, du même Montaigne, « Notre grand et glorieux chef-d'œuvre, c'est vivre à propos ». Avec la grâce de l'occasion, j'ai essayé d'exprimer cette exigence. Vivre chaque instant comme s'il était le premier et le dernier. Accommodation optique à la proximité de la mort, selon les mots de Jean Kelevitch, qui peut s'avérer alors tremplin et source créatrice. La sagesse tragique conçoit une manière de vivre qui peut être plus libre, car toujours accompagnée de la conscience de l'imminence de la mort. Il y a là une véritable liberté d'exister, car cela implique que toutes nos entreprises sont précaires, peuvent être rompues à tout moment, et pour cela même précieuses. C'est précieux parce que c'est précaire, dit Jean Kelevitch. Intérioriser profondément notre position minuscule dans le temps et dans l'espace, c'est aussi offrir le sens aigu de notre propre dérision. Et du même coup, ouvrir une voie à un véritable sentier humoristique. Subtile association de la légèreté et de la gravité, l'humour parle de cette capacité à examiner le pire d'un œil amusé et bienveillant, ramenant notre cheminement à la toute petite aventure qu'il est. La pointe de l'humour, en ne guérissant rien, révèle la capacité à être pleinement ici et maintenant ce que je suis, en retournant la noirceur intérieure en gaieté tragique. J'ai tenu aussi et surtout à considérer la joie. Paradoxale et irrationnelle, puisqu'elle approuve l'existence en dépit de son caractère objectivement indésirable, la joie se donne comme l'expression même d'une capacité de réjouissance inconditionnelle, en mesure de résister à la peine. Dans son ouvrage « Le choix des mots », Clément Rosset revient sur le cœur de sa réflexion, consistant à savoir, je le cite, « s'il est possible d'aimer la vie en conscience, c'est-à-dire sans être obligé tous les jours d'un peu se mentir à soi-même ». La pensée tragique peut répondre par l'affirmative. Si elle ne cherche pas à montrer la réalité sous un jour plus riant qu'il n'est, elle n'entend nullement la purger de toute positivité. C'est là tout l'écart avec un pessimisme strict, tel qu'a pu le formuler Schopenhauer, par exemple, qui, partant de la vision d'un monde absurde, aboutit à une vision comptable, c'est-à-dire le mal l'emporte sur le bien, la douleur sur le plaisir, la tristesse sur la joie. apte à constater avec Nietzsche que la joie, c'est être plus profonde que la douleur, la sagesse tragique invite non à une négation du vouloir vivre, destinée à réduire l'emprise des affects qui nous font souffrir, mais à une affirmation sans partage de l'existence dans sa totalité tragique. Perspective à laquelle l'humour et la joie offrent le plus sûr éclat, preuve flagrante que la vie se passe de justification et peut être approuvée contre toute attente. Voilà, je vous remercie. Je peux parler trop vite. Voilà, donc maintenant, on vous propose un temps d'échange. Questions, réponses. Peut-être que quelqu'un a envie de se lancer. Ou pas. Non, le but, c'est que mon ouvrage, le but de cette séance, justement, c'est un café culturel, c'est de qui serve un peu de prétexte pour parler de questions qui nous concernent tous, au fond, considérant notre existence, la gravité de celle-ci, l'humour dont on est capable. Donc c'est un prétexte plus que. Donc il ne faut pas se sentir du tout retenu.
Moi, j'ai peut-être une question, alors qui peut peut-être replacer les choses dans une expérience commune, parce que justement, moi, j'ai beaucoup apprécié la démarche de ton ouvrage. Je trouve que ça donne beaucoup à penser, que du coup, ça nous force à réfléchir, à poser des questions. Donc tout ça, j'ai trouvé ça hyper appréciable. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que toutes ces propositions-là, elles sont pensables par n'importe qui, indépendamment des expériences qu'on a dans la vie ? Et je vais préciser ce que je dis, c'est que là, par exemple, je sors d'un cours où je parlais de Nietzsche, de Schopenhauer et du tragique. En plein dedans. Et donc, c'est un cours qui s'adresse aux étudiants de première année. Et en faisant mon cours, je sentais que les thèses de Nietzsche, que sa manière d'envisager les choses, que son refus du pessimisme de Schopenhauer, que les expériences auxquelles il fait référence, etc., je pouvais les raccrocher à des expériences que moi j'avais faites. Et je me demandais si c'était possible aussi pour les étudiants. Et je me demandais si on peut penser les choses avec les concepts de tragique, penser la joie, penser même ce que tu dis de la fugacité, l'occasion. Et je me demandais si vraiment tout le monde pouvait penser ça, indépendamment des expériences qu'il avait faites. D'autant plus que Nietzsche a cette idée, dans Le Gai Savoir, au début, par exemple, il dit « J'écris un livre, mais mon problème, c'est que je ne sais pas si mon lecteur aura fait les expériences qui lui permet de comprendre ce que j'écris quand je parle de ce gai savoir. » Voilà. Et donc, du coup, j'avais envie aussi de raccrocher ton livre à des expériences qu'on peut avoir faites et qui nous plongent justement dans cette prise de conscience de l'expérience tragique. Parce que je ne suis même pas sûre que ça, ce soit... un sens de l'existence ou des questions sur l'existence qui soient de l'ordre de l'expérience pour tout le monde, en fait. Je sais pas ce que tu en penses.
Je pense que par exemple, moi, quand je me suis attardée sur l'ennui profond ou l'angoisse, je pense que on est quand même tous à même, enfin à même, ou même confrontés à un moment ou à un autre à ces expériences. Sauf qu'après, est-ce qu'on peut, on peut les reconnaître en tant que tels ? Faire la différence entre l'ennui ordinaire, qui est un simple désœuvrement, et l'ennui profond, qui montre le temps figé, cette panne du devenir, et qui nous renvoie à notre néant. C'est sûr que je pense que ça renvoie à des expériences qu'on fait ou qu'on fera à un moment ou à un autre. Après, on en revient à cette idée de contournement ou de mensonge où on veut se voiler la face, qui fait qu'on ne va pas creuser cette expérience. On va essayer vite de passer outre. Et moi, ce que j'ai voulu mettre en avant dans cet ouvrage, notamment, en me fiant beaucoup là-dessus à Clément Rosset, c'est de dire que, parce qu'à la limite, on pourrait me dire bah, pourquoi éprouver ces expériences douloureuses si on peut s'en passer. Mais le cœur du propos, c'est de considérer que l'être humain chute d'autant plus cruellement lorsque l'abrupte latitude des faits reprend ses droits. C'est-à-dire qu'on peut fuir pendant un moment et puis il y a un moment, on est toujours rattrapé par le réel. Le réel nous rattrape toujours. Donc, autant essayer d'aller dans ce questionnement de notre condition pour en faire quelque chose. Donc après, je ne sais pas si je réponds à cette interrogation, mais je pense que ces expériences, on est tous amenés à les faire, mais encore faut-il vouloir vraiment les traverser. Et puis après, on peut en être à... C'est quand même l'idée d'un cheminement, c'est vrai. Donc on peut en être à un moment de son parcours. Je pense à une personne jeune qui se sentirait mal et qui serait tentée par le suicide, ce qui concerne beaucoup de jeunes individus. Le fait de réfléchir à sa condition, d'essayer de voir où il en est, comment il peut se rapporter à son existence, c'est ce qu'on essayait de dire tout à l'heure, c'est que ça devrait l'inciter à ne pas le faire. Donc c'est toujours pareil, c'est pas en désapprouvant ou en ne parlant pas du problème qu'on va éviter que ça se produise. Mais je suis d'accord avec toi sur le fond, c'est que ça suppose un vécu, ça suppose des expériences qu'on a traversées, ça suppose... Mais l'idée, c'est de se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut en faire ? Comment se rapporter à son existence à partir de là ?
Je ne sais pas, il n'y a personne qui fait la philosophie dans les écoles, là, vous savez, la philosophie pour les enfants ? Non ? Parce qu'ils ont des discussions là-dessus maintenant, des petits, quoi. Faut que je donne le micro.
Oui, bah, finalement. Oui, ben bah, voilà. Non, mais en ce qui concerne l'expérience, même si je pense que tout le monde sera à un moment donné confronté à le vivre, la seule chose, c'est qu'est-ce qu'on le reconnaît en tant que tel. Et puis, je pense qu'aussi... comme les stratégies d'éviction, maintenant, c'est surtout de rechercher ailleurs la réponse qui est en nous. Donc, si on se retrouve dans une situation, je ne sais pas, très inconfortable ou de douleur, etc., la première, ce qu'on peut voir, c'est que souvent, la réflexion, on ne cherche pas en soi ce qui a pu être, en admettant que ben, on est faillible ou on est et que c'est comme ça, et que quand on est un bébé, ben, on tombe... 150 fois, 1000 fois avant de marcher, mais qu'on continuera à se relever pour marcher. Mais quand on est adulte, eh ben, on le fera moins. Et surtout, je pense qu'on a souvent tendance maintenant à chercher des justifications ou des raisons, ou surtout des qui est responsable de ça. Ouais. Et je pense qu'on devrait davantage faire un peu plus de philosophie, parce que maintenant, on est dans une... où on cherche toujours qui est responsable de quoi. Je vais mal et pourquoi ? Voilà. Alors comme je vais mal, pourquoi ? Mais en fait, on va tout mal parce que quand on est, ben, on va déjà mal. On commence mal, tout est mal. La maman a mal, tout le monde a mal. Mais bon, et c'est parti et c'est mal barré. Et mal barré. Ben oui, c'est sûrement mal barré. Puis après, il y a des gens qui décident pour toi de ce qu'il y a. Alors tu vas encore plus mal. Et puis personne ne donne. Je pense que souvent, les espoirs, c'est qu'on n'a pas la réponse à ça. Mais ce qui, alors je connaissais pas. Et de moi là.
Clément
Rosset. Voilà. Je connaissais pas trop, mais c'est pas la solution non plus. Je pense qu'effectivement, si tout le monde a été confronté à un moment de mettre un terme à quelque chose, et je pense que c'est aussi important de dire qu'on a le droit. De...
Oui.
Et je pense que rien dans notre, oui, mais dans notre civilisation judéo-chrétienne, t'as pas le droit de mettre un terme. Et ça, c'est un poids énorme qui complique encore plus ces choses que si on nous donnait la possibilité l'éventualité de pouvoir soi-même décider d'eux, on le ferait peut-être pas. Mais ça libérerait.
Exactement.
Alors, je pense que tout le monde est à un moment donné confronté à ça. Je pense que...
Voilà. Et c'est pour ça que je disais que ce sont des expériences qui, peu ou prou, nous concernent tous à un moment ou à un autre.
Oui, merci de mettre le tragique aujourd'hui au milieu. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est qu'on ne le veut pas. Mais en plus, maintenant, il faut être optimiste. Alors, tout va bien, dans le meilleur des mondes.
Ouais. Et ce qui crée, à mon avis, des dommages très profonds.
Ça va être, enfin, je pense qu'en partie irréparable, parce que la chute va être d'autant plus importante qu'on n'est pas.
Voilà. Comme... La chute est d'autant plus douloureuse. Et...
Oui, et ils auront du mal à s'en remettre. Ouais. Parce que, en fait, cette stratégie d'enfouissement, ce n'est pas la bonne.
Non. Tout à fait.
Enfin, à mon avis.
Oui, parce que.
Enfin, je sais pas, je connais. Enfin, moi, j'avais reproché à ma maman de m'avoir mis au monde. J'ai jamais demandé à être là. Là. Qu'est-ce que tu m'as fait là? Je suis en train de souffrir. J'ai une adolescence de. Et tu veux dire, qu'est-ce quelle idée vous a pris de? J'ai rien demandé. Enfin bon, je pense que tout le monde l'a vu à un moment donné. Et puis on voudrait dire. Enfin bon, c'est injuste quoi. Enfin, tu n'avais pas dit que ça allait être une merde pareille.
C'est pour ça que j'ai écrit une partie qui s'appelle Le crime d'être né, qui revient notamment sur. Oui.
Tu vas nous obliger à lire ton livre. Ouais. Franchement,
je suis très douée en vente.
Dis donc, au fil des années, qu'est-ce que tu t'améliores ? Non, mais je pense qu'effectivement, je pense que tout le monde a pu penser à un moment donné après quelle réponse on donne, ou est-ce qu'on a le courage de le dire, ou d'en débattre, ou d'en parler, ou de ne pas en parler. Je pense que si on n'en parle pas, effectivement, les stratégies d'éviction, c'est.
Puis c'est surtout. Ce sur quoi j'ai voulu insister, c'est en parlant de l'occasion et de l'instant, c'est que c'est surtout que ça donne lieu à des gens qui finalement ont une attitude distraite au monde, puisqu'ils sont toujours en avant d'eux-mêmes. Le sens de l'occasion, c'est justement de se dire, voilà, quand je parlais de vivre chaque instant comme s'il était le premier et le dernier, c'est ça, tout peut se rompre à tout moment, donc autant que je m'applique, je me concentre au maximum sur ce que je fais, sur les êtres qui m'entourent, sur cet instant que je vis, parce que l'instant suivant, je serai peut-être plus là. Et donc, c'est pour ça que la pensée du tragique ne vise pas à faire souffrir, c'est bien ce que je disais, c'est pas un masochisme non plus. C'est que c'est une façon d'essayer de réapproprier le temps différemment. Donc, c'est en cela que j'ai voulu développer ce propos, en fait. Tu peux peut-être lire le texte de Jean Kelevitch qui s'appelle La fée occasion. C'est un très beau texte.
Le micro, il me bloque un peu, je dois dire. Ouais. Je vais faire sans. Ouais. Tout à l'heure, ça me bloque.
C'est un très beau texte de Jean Kelevitch qui vient d'un ouvrage d'entretien quelque part dans l'inachevé, qui est très beau.
Peut-être pas le micro. Non, mais.
Mais ce sera pas sur le podcast si tu
voilà,
si tu prends pas le micro.
Alors non mais je vais faire sans.
Oui mais c'est...
tant pis.
Elle se braque.
Ça dérange vraiment si je suis sur le côté.
Non, je peux le tenir. Mais c'est juste que en fait ça bloque la bouche, c'est ça qui est un petit peu emmerdant quand on parle.
Ça va être sur le podcast.
Ouais, c'est ça. Alors je vais Alors donc Emmanuel a sélectionné des textes sur donc ce thème de l'occasion et donc je vais lire l'extrait de Yankelevitch. C'est celui-là, hein, Manu, je me trompe pas?
Oui.
Alors en plus l'occasion c'est très joli parce que Yankelevitch il appelle ça la fée occasion. L'occasion est pour nous une chance de réalisation, de connaissance ou d'amour. Mais pour qu'il y ait rencontre, il faut être deux. Il faut se tenir prêt, faire le guet et bondir comme fait le chasseur qui capture une proie agile. L'à-propos sans lequel l'occasion nous échappera, c'est l'à-propos d'un éclair, d'un maintenant incandescent, surpris sur le fait, d'un instant si fugitif que la seconde même où j'en parle est déjà loin de moi. L'étoile filante ne nous laisse pas beaucoup de temps pour former un vœu.
Elle ne nous prévient pas longtemps à l'avance de son passage. Et l'instant d'après, elle a déjà plongé dans le ciel noir de la nuit d'été. Et là, c'est l'expression que Manu adore. « Attrape-moi par mes cheveux !» Quand vous rencontrez un homme qui vous plaît ou une femme qui vous plaît, « Attrape-moi par mes cheveux !»
Ça peut être périlleux. Quoi.
Ça peut être périlleux. L'occasion n'est pas seulement une faveur imprévue, dont il faut savoir profiter et qui veut des âmes parfaitement disponibles pour la grâce occasionnelle de l'impromptu. Elle est aussi quelque chose que notre liberté recherche et au besoin suscite. Si l'occasion est une grâce, la grâce suppose, pour être reçue, une conscience en état de grâce. Tout peut devenir occasion pour une conscience inquiète, capable de féconder le hasard. C'est l'occasion qui électrise le génie créateur, car l'occasion est l'électrochoc de l'inspiration. Mais c'est pour le génie créateur que la rencontre, au lieu d'être une occurrence muette, devient une occasion riche de sens. L'improvisation n'est pas seulement une opération hâtive, une manœuvre in extremis, bâclée et terminée à la diable. Elle désigne encore le mystère de la parturition mentale. Elle est le commencement du commencement, la première démarche de l'invention créatrice à partir du rien de la feuille blanche, à partir de l'amorphe et de la parole balbutiante.
Non, j'ai une remarque. Finalement, ton livre se présente un peu comme le portrait intellectuel ou littéraire d'un penseur tragique. Qu'est-ce que c'est ? Et comme cet art du portrait réno-flamand, où on arrive à comprendre une intériorité cachée par rapport au moindre trait, au moindre détail, on pourrait se dire que l'organisation des chapitres et que l'apparition de la joie antithétique au final vient aussi répondre à une objection principale. Peut-être qu'il y a une illusion ou un danger, qui est peut-être l'ultime danger du penseur tragique. Après tout, le danger du penseur tragique, lui qui a évacué tous les faux-semblants, qui est prêt à surmonter toutes les formes de douleur, et à surmonter, à évacuer en tout cas les stratégies d'évitement, il y en a peut-être une, c'est celle de se complaire dans le tragique, tomber dans un pathétisme. Alors, ma question, c'est de se dire, peut-être on pourrait te lire ainsi, te comprendre ainsi, peut-être qu'on peut comprendre aussi le thème de la joie et plutôt du rire en réalité chez Rosset, comme étant le remède à la dernière illusion intellectuelle, celle peut-être à laquelle n'a pas échappé Schopenhauer, c'est que le rire est beaucoup plus important que cela, parce que c'est le risque de se rire de soi-même, de comprendre qu'on peut éviter de se complaire dans un confort pathétique, et que au final, tu avais fini sur la joie et le rire, c'est pas tout à fait la même chose, mais on peut se dire quand même que l'étincelle du rire et le rire tragique est d'autant plus nécessaire, inhérent à la pensée tragique plus que jamais. Mais c'est qu'une proposition.
Mais écoute, je suis tellement en phase avec ton propos, et c'est vrai que c'est important de préciser que la visée du tragique, ce n'est pas du tout de tourner le couteau dans la plaie du sinistre et de la sinistrose et de se complaire là-dedans. Là, ce serait pas aller au bout ou, comme tu dis, voilà, verser dans une attitude complaisante. Et c'est vrai que le sursaut du rire humoristique et de la joie doivent nous, justement... Exactement. Donc, rien de plus à ajouter à ton propos. Ouais.
C'est drôle parce que hier, j'ai été au Musée des Confluences où il y a une exposition sur les Kalash, un peuple du Pakistan qui vit dans les montagnes et qui sont des penseurs tragiques qui ont mis en application parfaitement, je crois, d'après ce que je découvre, cette pensée parce que lors d'un décès, par exemple, donc ça représente environ 3000 personnes, plus que 3000 personnes dans les montagnes, qui vénèrent différentes divinités. Et quand il y a un décès, ils se réunissent et en fait, comme ça existe aussi dans d'autres sociétés, c'est l'occasion d'une grande fête. Et c'est vraiment, c'était présenté comme un temps de joie et de relance aussi de la machine de la société. Comme voilà, c'est une dynamique, voilà, pour relancer l'énergie de la société. Les femmes se libèrent les cheveux alors qu'elles sont toujours très très strictes. Il y a des chants, des danses, etc. Et voilà, c'est drôle parce que ça fait un bel écho. Voilà.
Il faut aller voir l'expo. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou remarques. Ouais.
Alors moi, ma question va être plus pragmatique. C'est juste, admettons, par exemple, jusqu'ici, jusqu'alors, dans ma vie, on va dire tout va bien. J'ai pas encore eu de grosses souffrances, grosses douleurs, ce genre de choses. Et je me demandais, est-ce que il est nécessaire d'aller vers ce genre d'expérience, d'aller vers la tempête que vous évoquez, dont je sais plus quel passage, où vous évoquez une tempête intérieure qui est importante, donc. Ce que j'ai assimilé, mais est-ce qu'il est nécessaire d'aller au-delà du danger ? Parce que, admettons, si je continue ma vie comme elle est partie là et que, admettons, tout se passe bien, c'est peut-être possible, hein, ou est-ce que je dois me contenter de mes petites. Apparemment, non. Ou est-ce que je vais me contenter de mes petites douleurs, comme par exemple, là, ce qui est terrible, ce qui est arrivé, puisqu'avant de venir, j'ai voulu commander un Kinder Bueno, il n'est pas tombé.
Ah.
C'est douloureux. Est-ce que je dois me contenter de ça ou est-ce qu'il faut que j'aille au devant d'expériences plus douloureuses qu'un Kinder Bueno qui ne tombe pas ?
Alors,
c'est un bon début.
C'est une entrée en matière comme une autre, hein, le Kinder Bueno, mais.
J'avais faim.
Non, le but, c'est pas d'aller se faire mal pour le plaisir. Je l'ai bien précisé. Il n'y a ni une volonté de faire souffrir autrui, ni quelconque masochisme dans la démarche tragique. Le cœur de mon propos, là, vous dites, jusqu'à présent, il ne m'est rien arrivé de fâcheux. Tant mieux pour vous, mais je ne suis pas sûre que ça durera éternellement, malheureusement.
Bon. Dans l'optimisme ambiant.
Parce qu'on est tous confrontés à je parlais de sentiments profonds comme l'ennui profond, l'angoisse qui peut vous étreindre à un moment ou à un autre, vous avez la perte d'être des êtres aimés, la maladie, etc., etc. Donc c'est difficile de personne n'a épargné à un moment ou à un autre. Donc mon propos c'est d'essayer d'appréhender notre condition humaine dans sa mortalité intime et profonde pour nous en ressaisir. C'est ce que j'évoquais avec Françoise d'Astur quand elle parle d'assomption de la finitude, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de tamiser l'angoisse, mieux vaut essayer de s'ouvrir à elle pour avoir un élan dans l'existence. Voilà. Mais sinon, il ne s'agit pas de vous faire mal avant l'heure.
Mais moi j'aime bien cette question parce qu'elle rejoint la première question que j'ai essayé de te poser. Et en fait, en lisant le livre, je vais le faire chronologiquement. Récemment, j'ai lu un livre de Ruven Ogien qui s'appelle Mes mille et une nuits. Et c'est un livre contre le dolorisme.
Oui, tout à fait.
Donc lui, vraiment, il explique que toutes les formes de pensée qui trouvent un aspect positif à la souffrance et à la douleur, il les rejette, il les dénonce et il nous explique que la douleur et la souffrance n'ont absolument aucune positivité et que du coup à chaque fois qu'on voit douleur, souffrance, etc., il y a de multiples formes et c'est toujours un truc bizarre d'essayer de trouver de la positivité malgré tout à cette souffrance, à cette douleur. Et plusieurs fois dans l'ouvrage, mais je pense que c'est plus une manière d'écrire parfois qu'une réelle pensée que tu peux avoir, je me disais, mais si on prend ce passage-là en dehors du contexte global du livre, c'est une forme de dolorisme, de trouver qu'il y a un côté positif à la douleur ou à la souffrance. Et du coup, c'est aussi la question-là, est-ce que finalement, si je n'ai pas de douleur et si je n'ai pas de souffrance, est-ce que je vais chercher ces expériences-là pour m'ouvrir au vrai sens de la vie, qui a un sens tragique, où il n'y a pas de sens au monde, où la condition humaine est souffrance, est mort, est finitude, etc., etc. Et en fait, la grande question philosophique que je me posais en lisant le livre et qui n'est toujours pas close et que je retrouve dans une expression que tu as eue, tout à l'heure, en disant, la vie humaine est objectivement indésirable. Et moi, je me demande, est-ce que cette positivité de la vie qui s'appelle la joie, est-ce qu'on ne peut pas aussi imaginer, sans que ce soit de l'optimisme, et avec des penseurs qui, pour le coup, seraient plutôt Spinoza que Nietzsche, qu'il y a une positivité de la vie, il y a de la joie, il y a du plaisir, il y a de l'activité humaine, et qu'on peut se raccorder au sens de la finitude humaine, des expériences humaines, et s'ouvrir au moment présent, à l'occasion, au fait que, oui, effectivement, demain ou tout à l'heure, je peux mourir, sans passer par les épreuves que tu décris au début du livre, en fait. Est-ce que vraiment ces étapes-là sont nécessaires? Et si on ne les rencontre pas par accident, est-ce qu'il ne faut pas les chercher? Et est-ce que la pensée tragique n'est pas nécessairement doloriste, finalement, à trouver du positif dans le... Voilà. Donc ça, c'est des grandes questions. Hein.
Alors, c'est vrai que... J'ai lu cet ouvrage de Ruben Ogien où il fustige le dolorisme. Je pense pas que le tragique soit un dolorisme. Il s'agit plus de considérer que, comme l'écrit Nietzsche, comme le pense Nietzsche, que la joie et la souffrance sont deux sœurs de conditions, que l'une ne va pas sans l'autre. On peut pas avoir l'une sans l'autre. Et c'est plutôt ce constat que on ne fera pas que l'être humain ne souffre pas. Donc, ça ne veut pas dire que il faut aller vers cette souffrance ou la cultiver, mais ce sont deux sœurs de conditions. C'est-à-dire que l'une ne peut pas aller sans l'autre dans l'existence humaine. C'est en cela que, par exemple, Rosset distingue deux types de joie. Il dit, et lui qui était un grand, grand, grand joyeux et qui a beaucoup écrit sur cette question, un très beau texte, il dit il y a deux types de joie. Il y a la joie illusoire, celle qui se figure que sa joie est l'indice de la possibilité d'évacuer le tragique, que c'est la croyance au bonheur, que le tragique va disparaître, que la pensée du progrès, qu'on va aller vers une amélioration indéfinie de l'existence, qu'on va passer outre le malheur et la souffrance. Et puis, il y a la joie qu'il considère comme authentique, la joie tragique, qui, elle, reconnaît, quand je parle du caractère objectivement indésirable de l'existence, c'est que si on considère l'existence en toute froideur et lucidité d'esprit, considérant le caractère éphémère de toute chose, rien ne vaudrait qu'on s'y attache ou qu'on s'y attarde, puisque... nous sommes dans l'éphémère, toute existence est ténue. Mais justement, il associe à ce caractère objectivement indésirable de l'existence le fait que la joie, justement, il la qualifie de paradoxale, d'irrationnelle, puisque si je réfléchis, je vais dire bah, non, ça ne tient pas le coup. Mais la joie est inentamée par tout ça. La joie persiste. C'est pour ça qu'il dit que c'est une réjouissance inconditionnelle à propos de l'existence. Et c'est en cela qu'elle peut résister à la peine et qu'elle peut nous donner envie d'avancer contre toute attente. On n'attend rien, mais pourtant la joie est là. C'est pour ça qu'il parle d'une grâce, d'ailleurs, au sens presque la grâce de Pascal dans une perspective religieuse, mais une grâce de l'existence. Mais la joie authentique ne méconnaît rien. Elle ne se dit pas, bah, c'est bon, tout a disparu ou ça va s'améliorer. Donc, pour moi, il n'y a pas de dolorisme, en tout cas, dans la pensée tragique, dans cette perspective. Il ne s'agit pas de considérer que il faut absolument trouver une positivité dans la souffrance, c'est de considérer que la souffrance, de toute façon, ne sortira pas du tableau. Donc, si on n'aura pas la joie sans avoir connu la souffrance, très certainement. Mais bon, je...
Effectivement... Moi, ce qui m'apparaît, c'est plutôt de se dire que...
Certes, des gens ont fait que, voilà, on est né sur cette terre. Mais il me semble que ce que Emmanuel développe dans son livre, c'est cette idée qu'à un moment donné, c'est nous qui décidons de vivre. C'est comme une conquête, en fait. Et en ça, il y a aucun... c'est ni positif, ni... En fait, j'ai envie de dire, c'est hors toutes ces catégories. C'est hors bien, hors mal, hors positif, hors dolorisme. C'est en dehors de tout ça, c'est juste se dire, je dis un grand oui à la vie. Mais c'est un oui qui est une conquête. C'est pas un oui parce que j'ai jamais vécu ça. Moi, je trouve... voilà. De toute façon, un jour ou l'autre, on est confronté à quelque chose, à des épreuves dans la vie, c'est obligé. Enfin, je veux dire, c'est là pour le coup, c'est absurde de dire que ça n'arrivera jamais. Ça n'a pas de sens. On perd des gens qu'on aime. Il y a des renoncements, je veux dire. Forcément, il y a des choses. Mais je crois qu'il y a vraiment c'est très dynamique, quoi. Il y a une phrase. Putain, je me cogne avec le micro. Il y a une phrase que j'ai lue tout à l'heure que j'aime beaucoup. Elle dit on ne s'invente pas sans trouble. Cette idée qu'on s'invente, c'est très important. Cette idée qu'on va devenir un sujet, quoi. Quelqu'un qui on va le devenir, c'est pas donné au départ, quoi. Et ça, je trouve que c'est vachement important. Donc pour moi, il n'y a aucun dolorisme là-dedans. La souffrance, elle est inhérente à l'existence. J'ai envie de dire, ça ne se discute même pas, quoi. C'est une évidence. Mais voilà, un jour ou l'autre. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se dire, putain, merde, quand est-ce que ça va arriver? Quelle horreur. Non, mais c'est absolument... ça fait partie de la vie, quoi. Enfin, c'est tellement évident. Enfin, pour moi, c'est l'évidence.
Donc après, c'est ça. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, là, c'est la... comment on l'appréhende? Est-ce qu'on considère que c'est un accident et qu'il faut la fuir autant que possible, ou est-ce qu'il faut essayer de l'intégrer à soi-même pour avancer, quoi?
Je rebondis sur ce que vous dites là, sur comment on l'appréhende. Mais on l'appréhende quand on est confronté, c'est tout, en fait, tout simplement. Et on n'est jamais préparé. On n'est jamais préparé à un divorce, à la mort de quelqu'un, à une séparation. Enfin, on n'est jamais préparé. Peu importe ce qui arrive, on peut l'appréhender quand on y est confronté, en fait. Donc, on n'est jamais préparé.
Non, mais c'est en ça où c'est, enfin, ce que tu dis, c'est vrai que. Qu'on n'est pas préparé, et que justement, je pense que ce que Manu nous donne dans son livre, c'est cette idée. Quelque part, c'est du courage. C'est de dire, bon, ben, il faut le traverser, quoi. Et autant, quelque part, j'ai envie de dire, autant en faire quelque chose qui va faire que.
Positif, à la limite, ou pas positif, mais essayer de
d'en faire quelque chose.
Ouais. Comme un.
C'est une création, c'est pour ça qu'elle parlait. Yankelevitch, il parle de création. L'invention, la création, on est les créateurs de soi-même, quoi. Et je trouve que dès lors qu'on commence à se dire ça, ça devient génial. C'est vrai, c'est tout ce qu'on vit chaque jour, c'est ça qui nous construit, c'est ça qui fait qu'on n'est plus le même d'instant en instant, on est différent. Parce qu'on a appris un truc, parce qu'on a su regarder un truc. Et en ça, je trouve que tout ça est très réjouissant, pour finir, en fait.
Promouvoir par la promotion. Et c'est vrai ce que tu disais sur la notion d'impréparation. On n'est jamais préparé. Je pense à par exemple les textes de Montaigne où il disait, c'était une préoccupation des anciens, peut-on apprendre à mourir? Et il y a des textes entiers dans les Essais de Montaigne où il parle de ça. Puis à la fin, il avance dans les essais, il dit non, au final, on ne peut pas apprendre à mourir. En revanche, d'avoir en soi cette conscience de l'imminence de la mort, ça peut nous rendre présent ici et maintenant. Et quand je dis ici et maintenant, c'est pas le, on n'est pas dans le pseudo, le carpe diem aujourd'hui, un peu jouir sans entrave. C'est pas ça. C'est pas une jouissance tous azimuts. C'est essayons d'être attentifs, d'être concentrés sur ce que l'on fait, sur les êtres qui nous entourent, sur ce moment. Et ça peut donner quand même plus d'intensité. Mais effectivement, on n'est pas préparé. Mais ce que je voulais signifier aussi, c'est que là, je l'ai enlevé dans ce texte, mais dans ma thèse, j'avais été intéressée sur la mort contemporaine. Cette mort taboue, cette mort qui n'existait plus et qu'on cache autant qu'on peut. Ça crée les pires dommages. Dans une société où la mort est enlevée du paysage, quand l'homme est confronté à sa mort prochaine, il est d'autant plus désemparé. Parce que tout est fait pour lui cacher cette cruelle réalité. Ce que disait Amélie sur la cérémonie, où là, justement, on a une vraie cérémonie pour le défunt, celui qu'on a fini avec la vie, et pas seulement aujourd'hui le décès, c'est la fin, c'est le défunt, le defunctus, c'est celui qu'on a fini avec la vie. On célèbre ce moment, on dit adieu, on dit au revoir, et la vie reprend ses droits à partir de là. Dans une société qui occulte la mort, on crée des êtres d'autant plus désemparés face à cette réalité. Donc c'est en cela que, encore une fois, il n'y a pas de dolorisme, mais c'est de dire la mort, elle est là. Elle est en nous, et elle rattrape personne au passage.
Ah non, donc on va tous y passer.
Voilà.
Ça, c'est
donc
sûr.
On peut pas se préparer. En revanche, être conscient de notre finitude, ça peut amener des choses.
Mais il y a d'autres cultures où on fait un banquet.
Oui.
Je pense à une histoire. Les Russes font des banquets. Les Allemands, chaque fois que tu fais, il y a un décès, les gens se retrouvent autour d'une table, etc. Et tu manges, et tu bois, et tu discutes, et tu essaies de faire revivre celui qui vient de partir. C'est pas un manque de respect que justement.
Au contraire.
Alors, ouais.
Si ça tisse la mémoire entre la mémoire de la personne qu'on a perdue et les survivants et ceux qui restent.
Inévitablement, c'est surtout si en plus on est tout seul face à ça, les gens sont. Mais comme tu dis, les décès. Mais maintenant, moi, je vis dans un immeuble. On ne dit surtout pas quand la personne est décédée. Quoi. Je veux dire, la boîte aux lettres, elle est vide. Ah oui, elle est décédée au mois de novembre. Ah, d'accord, on est déjà au mois de janvier. C'est-à-dire qu'en fait, et moi, je viens d'une culture où non, le décès, il est cachée. Manifesté. Il faut que tu le dises, que tu le vois, tu vas voir les gens, on se rend compte, on en parle, parce qu'on ne le cache pas. Mais ici, en milieu urbain, tu sais pas si les gens, quand ils sont partis, sont partis, ou ils ont déménagé, t'en sais rien, et ils te le diront pas.
Non, c'est la mort discrète. La mort
elle n'existe pas, cachée. Ici, ça n'existe pas, tu ne vois jamais un enterrement, enfin rien, on ne manifeste pas, il n'y a pas de... Et c'est assez... c'est anxiogène aussi, parce que... oui, moi je trouve que c'est pire de...
Ça crée plus de dommages à la
réalité,
c'est
beaucoup plus.
Dans mon propos aussi, c'est
de
dire...
Et ça donne beaucoup plus de solitude à personne qui vit, parce que on est ces petits vieux, là, parce qu'on est dans un quartier où il y a beaucoup... centenaires, et tout d'un coup ils sont plus là, tu sais pas, ils sont partis sûrement tout seuls, et toi t'étais au-dessus, tu savais pas,
ouais.
Et personne te le dit, la famille te le dit pas non plus parce que, tu sais pas pourquoi, on occulte, ça n'existe pas, on vend l'appart, c'est fini, terminé, autre histoire.
Voilà, terminé. Et...
Ouais. Il y a un effacement. Oui, enfin je pense que on vit plus avec la mort,
non,
on la célèbre plus, alors du coup ça. Ça fait qu'on est très, très anxieux.
Et je pense justement que le fait de nier la mort, traiter la mort comme quelque chose de tabou dont il ne faudrait pas parler, c'est nier en quelque sorte ce qui a été le plus cru, organique et vrai dans l'existence d'une personne. Donc le fait que qu'une personne était un corps, qui a eu des expériences physiques également, et que bah, voilà, la mort fait partie de ce parcours. Donc bah, il faut le dire, parce que sinon on nie vraiment bah, tout ce qui a été sur ce point de vue-là. Et ça rejoint un peu la question de la crudité dont tu parlais au début. La
crudité, oui. Donc c'est en cela qu'il peut y avoir de très lourdes occultations. Parce que les répercussions sont profondes. Une mort qu'on a occultée, une mort qu'on n'a pas reconnue, pour laquelle on n'a pas pris un temps, est une mort qu'on voilà qu'on passe sous silence. Et pour le mort, c'est pas très respectueux. Bon, vous allez me dire, c'est plus son problème, mais c'est pas respectueux. Et surtout, pour ceux qui restent, ça crée des mémoires entamées. Ça crée, on n'a pas. Et puis, les gens sont souvent mis dans l'obligation de bon, vite, il faut se remettre en route. On n'en parle pas, on va se remettre au travail. On en parle. T'as des gens qui n'osent pas en parler, qui n'osent même pas en parler parce qu'ils ont peur de déranger ou ils ont parce que y a un contexte qui fait que bon, c'est la mort est plus présente quoi. C'est en ça que par exemple la pensée tragique peut rappeler cette exigence de ne pas occulter la mort quoi.
Il y a eu les attentats, on en parle. Et moi, j'ai l'impression que parfois, il y a ce mot, mais qu'on ne voit pas que derrière, il y a eu des morts, etc. Mais il y a surtout des familles. C'est des milliers de gens qui sont impactés. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On ne parle pas assez de... Une fois de plus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... presque ça n'a pas existé. Alors, on en parle comme ça un jour dans l'année, mais je trouve qu'on ne parle pas assez des conséquences sur toutes ces familles qui sont, profondément... Il y a quelque chose de très douloureux, et je trouve que... Moi, j'entends rarement, j'ai entendu une fois le père d'une enfant qui est morte dans les attentats, et je me disais, mais en fait, ça me faisait du bien d'entendre ce monsieur. Pourtant, c'était très triste ce qu'il disait. Et je me disais, oui, c'est pas abstrait. Un attentat, c'est ça. Et je trouve qu'on a tendance à rendre les choses très abstraites.
Bon, tu préfères commémorer.
Voilà.
On commémore, et donc du coup, ça rend un côté, abstrait. La société, on commémore, et puis c'est terminé. C'est comme. Je vais mettre des petites au bol, et puis voilà, puis après je rentre chez moi, puis ouf, j'y pense plus parce que ça peut être on a l'impression que ça peut être contagieux, en fait. C'est comme si tu allais toucher ton bonheur instantané, c'est contagieux. Contagieux de parler de choses qui dérangent, qui sont là, parce qu'on vit, je pense, plus dans une sorte d'illusion dont tu parlais, des stratégies d'éviction, pourvu que ça m'arrive pas. D'ailleurs, ça arrive on a toujours l'impression que ça arrive qu'aux autres, puis finalement, ça arrive à vous arriver. Non, mais ça n'arrivera pas, forcément, c'est pas ça le problème. C'est pas la bonne réponse à la bonne question. Et je pense qu'on est un petit peu malade de ça.
Même tout, enfin, ce que vous dites, c'est
peut-être
que c'est une question de ça m'arrivera pas.
Tous les gens qu'on voit dans la rue, par exemple, on se dit, je pense qu'on a tous, à un moment donné, par moment, on a envie de détourner le regard parce que ça nous fait peur, ça nous terrifie de se dire un jour peut-être je peux être là. Enfin, on se le dit même pas d'ailleurs. Enfin, peu se le disent. Mais c'est vrai que je pense que, enfin, tout ce que cette réflexion sur se dire voilà, je m'y colle quoi. Ça existe, je ne fais pas semblant que ça n'existe pas, et je trouve qu'au contraire ça veut dire qu'on va peut-être avoir une main tendue. Enfin, tout ça est très joyeux en fait.
Moi, il y a un étudiant qui est très joyeux qu'on a, qui est étudiant marin, celui qui est chez nous en faculté de droit, et marin a été victime de cette agression qui l'a laissé vraiment dans un état très très grave, il a subi beaucoup d'opérations, etc. Et moi, je l'ai rencontré, ce gamin, puisque ce jeune homme, il est joyeux, il a beaucoup d'humour. Il a toujours énormément d'humour. Et on avait posé aussi la question à sa maman en disant, en fait, est-ce que vous... Enfin, c'est un journaliste qui lui a demandé, est-ce que vous lui en voulez à Marin d'être intervenu parce qu'il était intervenu parce que deux personnes s'embrassaient. Elle a dit non, je suis fière de mon fils qui l'ait fait. Et ce garçon, il est extrêmement joyeux. Et pourtant, je ne veux pas soupçonner. Je ne sais pas ce qu'il doit souffrir. Enfin, je sais, il a repris des cours. Là, maintenant, on le suit. Nous, on l'aménage. Il a une force de vie telle qu'il est, et sa famille ne lui a jamais dit tu n'aurais pas dû faire ça, quoi. De quoi tu te serais pas mêlé de ça, tu serais encore en bon état, quoi. Et ça a impacté énormément toute sa famille, mais la mère qui peut plus travailler, enfin, je veux dire, ça a des conséquences énormes. Et pourtant, et c'est pour venir, bon, ben lui, il a la joie, et puis il souffre, hein, mais il en... C'est pas qu'il n'en parle pas, enfin, ça se voit qu'il souffre, c'est inévitable. Mais il est surtout joyeux. Et là, pour revenir à ce que disait Aurélien, il fait rire. Enfin, je l'ai rencontré dans l'ascenseur, je ne sais plus ce que je lui ai dit. Et il a toujours un mot d'humour, tout le temps. Et il finira, il ponctuera par ça. Et puis c'est sa nature. Et sa nature n'a pas été touchée par cette terrible agression.
Je ne sais pas si tout le monde... connaît cette... Oui. En fait, Marin... Ça, tout le monde connaît cette... Non. Marin, c'est un étudiant de Lyon 3 qui, vers Lapardieu, s'est interposé parce qu'il y a des voyous qui embêtaient un couple qui était en train de s'embrasser et qui les menaçait. Enfin, je ne sais pas le détail, mais enfin, qui les cherchait des problèmes. Et lui, il a pris la défense de ce couple, disant, laissez-les tranquilles. Il s'est interposé. Et il y a un des voyous qui lui a mis un coup de béquille dans le crâne, hyper violent. Et donc, il est tombé dans le coma. Il a eu je ne sais combien d'opérations pour ne serait-ce que survivre, pour essayer de récupérer. Donc, ça fait oui, 3 ans, c'est ça,
Je ne sais pas exactement. Au moins 3 ans. Ouais. Il est très démédiatisé parce que, alors maintenant, les politiques s'en sont raccrochés. Enfin, bref, ouais. toute l'histoire. Ouais. Mais ça n'entache pas ce garçon-là qui a créé d'ailleurs maintenant aussi un prix pour s'investir. Ouais. Il a reçu la Légion d'honneur, etc. Mais c'est pas. Et il a compté.
Il ne cherchait pas ça, lui.
Puis cette année, on l'a reçu. Il recommence. Il était en première année de droit, donc ça a mis un terme.
Oui, ça a interrompu complètement.
Et là, il recommence. Il va en TD, il va en CM. On essaie de suivre.
Je ne savais pas qu'il avait recommencé.
Oui, on l'a reçu. On l'accompagne. Et c'est comme ça qu'on s'est entretenu avec lui. Et c'est là, pour le coup, ce qu'on avait un événement tragique, c'est ce qu'elle veut dire. Eh bien, aussi sa maman, il a des petites sœurs mais qui sont toutes petites, et personne ne lui a fait un quelconque reproche d'avoir, en gros, t'aurais pu faire comme les autres, laisse tomber, baisser la tête. À quoi ça sert, surtout en plus il y a les procès, enfin bon, sans compter toutes les douleurs des procès, des choses comme ça. Maintenant ils sont au pénal, enfin bon, bref, ça, on n'en parle même pas. Et bien pourtant c'est une famille qui est assez
soudé.
Soudé, puis je lui dis, il est joyeux.
Oui.
Il rit tout le temps. Il fait toujours de l'humour. J'ai été épatée parce que, alors, du coup, moi, je m'étais dit, je ne sais pas comment j'aurais pu me relever. Et c'est cette histoire de donner cette impulsion. On ne sait pas s'il n'a pas été plus vivant encore maintenant qu'avant, quoi. Et pourtant, il a extrêmement de difficultés à vivre. Donc, du coup, ça peut arriver à n'importe comment. Lui, il sortait de cours. Hein.
Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont gravement malades et qui expliquent qu'elles ont commencé à vivre à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que la prise de conscience de la finitude change radicalement le regard sur la vie. Et,
exactement. Et sur les rapports aux autres. C'est ça, ouais. La portée du tragique, c'est ça. Oui. Pour moi.
Non, justement.
Pas forcément, parce que si on peut...
Non, on n'attend pas.
On attend... si on peut, déjà faire quelque chose.
Mais c'est ça la question. Oui. Est-ce qu'on peut le vivre sans faire cette expérience-là de la maladie ou de la négativité?
Je pense. Parce que sans attendre d'être gravement malade, le fait d'avoir connu l'angoisse, je pense que ça épargne pas grand monde. Si on creuse son angoisse et que ça, on arrive à ce sentiment de déréliction, c'est le fait de bien sentir qu'on n'a aucune assise au monde et que exister, sortir de soi, ça doit partir de soi et que on est là seul. Face à cette existence, peut nous amener sur ce chemin sans attendre. Justement, c'est ça qui pour moi qui est important à la pensée tragique, c'est que justement d'essayer de, à travers des expériences qui sont fondamentales, sans pour autant être dans les expériences les pires, mais qui sont fondatrices pour soi-même, de prendre conscience justement de cette exigence. Donc après, oui, ça suppose des expériences, mais pas forcément. Les expériences les plus cruelles. Mais déjà, c'est pour ça que j'ai insisté dessus dans mon texte, sur l'ennui et l'angoisse sont des expériences fondatrices, fondamentales. Elles apportent un enseignement essentiel pour soi-même, pour autant qu'on les creuse.
Il est 8 heures. Vous n'avez pas un dernier texte à nous lire pour finir?
L'humour et la joie.
Voilà.
On finirait sur une note. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. Est-ce que tu peux peut-être. Est-ce que tu peux tout lire? Ou c'est trop long? Non, c'est peut-être trop long.
Peut-être cela,
cela, et puis si on a le temps, la suite. Je sais pas. Oui, on peut. Alors, Juliette nous dit qu'on peut.
Oui, alors d'abord, il y a Samuel Beckett qui dit « Les éclats de rire sont comme les coups de bâton donnés par le maître zen à son disciple afin d'éveiller son esprit. » Alors bon, Manu Mex est cité par Fernando Arrabal.
Un article, un entretien qui était paru dans Lire il y a de nombreuses années, et il disait que Beckett lui disait ça.
Alors après, c'est Ionesco. L'humour, c'est la liberté. L'humour est l'unique possibilité que nous ayons de nous détacher, mais seulement après l'avoir surmonté, assimilé, connu de notre condition humaine comico-tragique, du malaise de l'existence. Prendre conscience de ce qui est atroce et en rire, c'est devenir maître de ce qui est atroce. Françoise d'Astur. Le rire n'éclate que lorsque, comme dans l'angoisse, tout sol nous manque, lorsque plus rien de fixe ne subsiste, et qu'en se suspend, nous nous voyons soudain libérés des pesanteurs et des attaches de la quotidienneté. Est rendu à cette légèreté plus qu'humaine par laquelle l'existence de fardeau se voit muée en grâce. Incontrôlé, incontrôlable, le rire fuse, nous secoue, nous déchire plus intimement et nous ouvre plus infiniment que ne le font l'affliction et les larmes, qui nous rassemblent plutôt sur nous-mêmes. Follement, il nous porte jusqu'au bord de l'abîme que nous avons en nous, vers la profondeur sans fond d'une existence qui, dans sa mortalité foncière, loin de pouvoir jamais récupérer sa mise, est plutôt emportée dans l'irrésistible mouvement d'une dépense injustifiée et d'un devenir innocent. Dans le rire, nous faisons l'expérience que nous vivons pour rien. Que nous vivons sans raison et qu'il n'y a ni à chercher de raison ni à expier le fait que nous existons. Voilà. Merci. Et juste, je termine avec celle de Pau que j'aime vraiment beaucoup.
C'est les textes joie. Ouais. Le premier, c'était sur
l'humour.
Le rire humoristique.
Non, c'est là pour terminer, elle est vraiment tellement belle.
Oui.
Respirer seulement, c'était une jouissance. Et je tirais un plaisir positif, même, de plusieurs sources très plausibles de peine.